vous connaissez une femme scientifique?
À part Marie Curie, non.
Est-ce que vous pouvez me citer une femme qui travaille en technologie?
Non, malheureusement, non, je pense pas, non.
Bonjour, est-ce que vous connaissez une femme scientifique?
Non.
C'est pas étonnant. Les femmes en technologie, on n'en connaît pas vraiment. Même si elles représentent 20% de l'ensemble des personnes de l'industrie. Et en sciences, c'est pareil. Après les études, les femmes ne représentent que 20% des scientifiques. Mais celles qui œuvrent dans ce milieu sont passionnées. Elles foncent, elles doutent, elles cherchent. Et dans ce balado, elles se livrent à nous. Parfois à demi-mot, toujours à cœur ouvert. Ici Karine Mona, vous écoutez 20%.
Alors j'ai grandi au Liban jusqu'à l'âge de 8 ans, puis en France, et maintenant je suis au Québec. Je ne sais pas d'où je viens, ni d'où je suis quelque part, parce que c'est là où je dois être. J'ai toujours eu les cheveux courts quand j'étais enfant, et même on me prenait pour un garçon, et ça me faisait rire. Et quand j'étais en France, je me rappellerai toujours, j'étais dans un lycée où j'étais... qui venait juste de devenir mixte, et comme j'étais dans les parties scientifiques, j'étais la seule fille dans ma classe. C'était génial, j'ai bien apprécié.
Nada Jabadeau, vous êtes pédiatre et chercheuse en oncologie, donc sur le cancer, à l'Université McGill à Montréal, et vous étudiez ce qui cause les tumeurs cérébrales chez l'enfant, entre autres par la génétique, mais pas seulement. Alors, vous étudiez les tumeurs cérébrales des enfants, et en particulier les gènes de ces tumeurs. Racontez-nous un peu ce que vous faites.
Ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver qu'est-ce qui fait vivre ces tumeurs et comment les enlever, les éradiquer avec le moins de dommages possible chez les enfants et les jeunes adultes qui les ont. Nous utilisons différents moyens, en fait. On a beaucoup de chance parce que aux Children, et même à travers le monde, les personnes atteintes de ces tumeurs et leurs familles donnent ces tumeurs ou le reste qui n'est pas nécessaire pour faire le diagnostic à la recherche, pour qu'on essaye de comprendre un peu ce qui se passe, en sachant pertinemment que les résultats qu'on obtiendra ne s'appliqueront pas forcément à leur enfant. C'est vraiment eux qu'on doit remercier en premier. À partir de ce matériel, on fait différents types d'analyses. On regarde la séquence des gènes, de l'ADN, et on essaie de voir un peu est-ce qu'il y a des choses en particulier qui font que ces tumeurs ont une vie plus redoutable. Qu'est-ce qui pourrait être amené comme traitement qui ne soit pas des traitements nocifs et qui vraiment cible spécifiquement ce qui se passe à l'intérieur.
Parmi ce qui peut causer des tumeurs cérébrales, il y a entre autres les mutations dans les gènes, et vous êtes parmi les premiers scientifiques à avoir découvert l'implication des mutations de ce qu'on appelle des histones dans le développement du cancer. De quoi s'agit-il exactement?
En fait, ce n'est pas toutes les tumeurs cérébrales. C'est comme un peu, quand on parle de fruits, il y a 36 000 différentes sortes de fruits. C'est là où la confusion peut commencer.
Okay.
Les gens font des amalgames, cancer n'est pas cancer. Ce n'est pas la même chose chez l'enfant comme chez l'adulte. Ce qu'on a découvert au départ, c'est que les tumeurs qui portaient le même nom chez l'adulte et chez l'enfant sont animées par des choses complètement différentes, n'avaient rien à voir.
Ah, c'est intéressant ça.
Même si elles se ressemblent, mais vraiment, elles sont identiques sous le microscope, ce qui anime cette tumeur est complètement différent.
Waouh.
Ce qu'on a, notre équipe a fait en 2012, on a découvert ces mutations dans les gènes de l'histone. On était les premiers à les découvrir, et puis c'est un des gènes les plus conservés pendant notre évolution. Même les plantes ont ces protéines, et qui sont des protéines très importantes pour impacter l'ADN, mais qui également permettent à l'expression de notre patrimoine génétique d'avoir lieu. Juste pour donner un exemple, la manière dont je vois les choses, c'est que notre ADN est un peu comme des notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si.
Okay.
Avec ces simples notes de musique, on est capable de faire des partitions qui vont de la symphonie au rap, à n'importe quoi. C'est la manière dont vraiment on les organise, on les structure, qui fait que ça donne l'extraordinaire diversité de sons et de musique qu'on peut avoir. Et c'est pareil. Et les gènes de l'histone font partie de ces maîtres d'orchestre qui vont mettre la partition de notre génome et qui vont faire en sorte que ce qui s'exprime dans un cerveau ne s'exprime pas dans un cœur ou ailleurs. On a le même patrimoine génétique dans chacune de nos cellules, et c'est juste la manière dont on l'exprime qui fait de nous un fœtus, une cellule de cerveau ou de cœur. Et c'est le rôle de ces histones. Et c'est dans ces gènes-là où ces mutations ont lieu, et c'est des nouvelles mutations, c'est une nouvelle forme de créer un cancer. Ça n'a rien à voir avec la prolifération, c'est-à-dire les multiplications sans contrôle. Ça aboutit à ça à un moment donné, mais au départ, c'est vraiment une cellule du développement qui tout d'un coup arrête de se développer parce qu'elle est, elle a pas le bon code barre. Elle est vraiment coincée, je les appelle le syndrome de Peter Pan, parce que Peter Pan ne peut pas vieillir, donc ses cellules sont coincées pendant le développement à cause de ces mutations et deviennent très anormales par celui-là.
Et quand on lit un peu sur cette découverte, on voit que c'était une révolution dans le domaine. Donc, en quoi c'est une révolution? Est-ce que ça a changé la façon de concevoir les traitements après ou...
Ça a révolutionné le domaine à différents niveaux. Le premier niveau, c'est que personne n'imaginait qu'un gène de l'histone pouvait être muté. Parce que c'est tellement conservé, c'est tellement important. C'était comme, ah, la deuxième révolution, c'est, ok, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est un peu comme acquérir un nouvel alphabet. Et on avait besoin d'une pierre de Rosette pour voir comment ces mutations, qu'est-ce qu'elles font. C'est vraiment une nouvelle forme de cancer. C'est vraiment le fait de juste arrêter le développement. Ça ne pouvait pas être conçu avant comme forme de cancer.
Et alors pourquoi vous y avez pensé?
Moi, j'y ai pas pensé, c'est les mutations qui me l'ont montré. Ce qu'on a eu la chance, c'est de les découvrir et après d'essayer de comprendre ce qu'elles faisaient. Ces tumeurs sont complètement réfractaires. On peut donner à ces enfants et à ces jeunes ce que vous voulez comme radiothérapie, ce que vous voulez comme chimiothérapie. On peut enlever des cerveaux, on peut enlever des... Elles reviennent et c'est la même tumeur qui revient.
Wow.
Très insensible à n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui surprotège notre ADN et peut-être utiliser des massues pour un tout petit clou qu'on peut pas voir mais qui peut faire beaucoup de dommages, c'est peut-être pas le mieux à faire. Donc comprendre ce qu'elles amènent de nouveau est quelque chose de très important et c'est ça qui permet de traiter. En fait, c'est pour ça que je fais de la recherche. C'est pour essayer de trouver des réponses à des moments où il n'y en a pas.
Oui, parce que c'est ça, vous êtes médecin au départ de formation, puis vous êtes encore médecin d'ailleurs. Et pourquoi pas faire uniquement de la médecine, justement?
Parce que faire de la médecine uniquement brûle à différents niveaux. J'adore les enfants, j'adore les jeunes, les patients. Et on fait de la médecine parce qu'on veut rendre service. Et quand on veut rendre service, on ne peut pas rendre service en utilisant toujours les mêmes moyens. Donc soit on peut essayer d'être, et ce que font beaucoup de gens, d'être au fait de ce qui se passe et puis d'essayer de s'approprier des nouvelles choses et de les utiliser. Ou on peut faire partie des gens qui essaient de trouver des réponses différentes à des problèmes qui restent très insolubles. Donc moi j'ai essayé d'aller dans ce sens-là parce que ça m'intéressait plus.
Grâce à votre travail de médecin, vos travaux sortent largement du laboratoire. On peut dire que c'est lié à votre travail de médecin ?
J'en ai un peu assez de dire. Pour la tumeur, on a découvert la mutation. Je me sens un peu comme une usurpatrice parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retombées positives, que ce soit en termes de... Les gens nous connaissent, les gens connaissent nos travaux, on a des publications, on a de l'argent et ainsi de suite. Mais moi, je veux qu'il y ait des retombées pour les malades. Et donc, le côté médecin, c'est d'être amené constamment à la réalité et de voir que tant que ça n'a pas changé en clinique, tout ce qu'on peut trouver, c'est très beau. Mais il faut vraiment que ça aboutisse à un changement et c'est pour ça qu'on continue comme ça.
Mais parallèlement, vous menez des essais cliniques à l'hôpital Sainte-Justine présentement, mais je comprends que ce n'est pas en lien avec ces histones-là, mais avec d'autres projets et d'autres traitements possibles.
Ces histones ne sont pas le seul domaine dans lequel j'ai travaillé. Donc il y a plusieurs tumeurs du cerveau de l'enfant, comme je vous ai dit, et on a eu de la chance, c'est de découvrir pour d'autres tumeurs des traitements alternatifs. Et ce n'est pas simplement à Sainte-Justine, mais au Children où je travaille, on est vraiment une collaboration à travers le Québec, même à travers le monde, où on a pu trouver des thérapies ciblées qui, pour l'instant, marche très bien pour certaines. Donc, au minimum, dans 10% des tumeurs de l'enfant, on arrive à trouver une réponse et une cible qui est vraiment spécifique et un traitement par la bouche.
Wow. Le
problème, c'est qu'on ne sait pas encore quand on pourra arrêter ce traitement, quels sont les effets au long terme. Mais au minimum, entre savoir les effets réels de chirurgie successives, de radiothérapie, de chimiothérapie qui n'ont pas beaucoup de contrôle sur ces tumeurs versus une pilule, mais pour laquelle chaque fois qu'on essaye d'arrêter, on n'arrive pas encore complètement à arrêter. Moi, je penche plus pour la pilule en essayant de comprendre au mieux comment l'utiliser et comment l'arrêter plus tôt. Mais quand on cible exactement le problème, c'est ce qui s'est passé pour les leucémies myéloïdes chroniques avec un des traitements qui reste un des traitements phares dans le cancer, ce médicament oral qui a changé complètement la prise en charge de ces patients. C'est devenu une maladie chronique dont les gens vraiment vivent et vivent très bien et meurent d'autre chose. Mon but est que chez ces enfants et même chez ces jeunes adultes, ces traitements fassent la même chose. Et qu'à un moment donné, on arrive à les sevrer parce que c'est plus nécessaire. Dans certaines tumeurs, le temps est un énorme allié parce qu'elles s'épuisent. Donc c'est juste trouver le temps pendant qu'elles sont un peu trop jeunes et actives et ainsi de suite, de les faire taire. Puis après, elles vont s'épuiser et puis on n'en entendra pas parler. En fait, c'est l'espoir et il y a des données pour dire que cet espoir est bien fondé.
Et alors, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans votre travail, Nada ?
Le fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est vraiment un des... Ce qui me fascine le plus, c'est aussi le dévouement des gens. J'ai beaucoup de chance. Je travaille dans un milieu où les gens donnent leur temps, mais sans vraiment dire. On se plaint beaucoup du système de santé, de beaucoup de choses, et ainsi de suite. Il y a des raisons. Mais quand on a un enfant ou un jeune qui a un cancer, je peux vous dire que les moyens sont là, les moyens sont utilisés. Et c'est ce qui me fascine. Je suis tout le temps fascinée par le dévouement de ces personnes et du fait que chacun fera le plus qu'il faut et au-delà. C'est vraiment la beauté, c'est de voir et de voir les choses changer. Ça aussi, c'est autre chose qui m'anime dans ça, c'est d'avoir eu le plaisir de voir des choses que j'arrivais pas à traiter. Pas simplement par mes faits, certainement pas, mais par le fait de l'avancée des sciences, de la recherche. Et c'est pour ça que pour moi, la recherche est un outil indispensable. On peut traiter ce qu'on comprend. Pour comprendre, il faut chercher. Donc la recherche est vraiment, vraiment à l'origine de toute avancée qu'on peut avoir. Et il faut y croire.
Il y a une plus grande proportion de femmes en pédiatrie, mais quand on est la seule femme chef de clinique, par exemple, est-ce qu'on réalise qu'on est minoritaire ?
J'ai jamais pensé être minoritaire, c'est drôle. Moi, j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Moi, je suis libanaise d'origine. Mes parents étaient conservateurs, mais pas assez dans le sens où ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais, mes études et ainsi de suite. Mais je me rappelle, je devais faire la valise de mon frère parce que mon frère, c'était un garçon et que moi, j'étais la fille et je refusais. Donc, on peut parler d'inéquité à ce moment-là. Mais à chaque moment, je pense que c'est la personnalité. Il y a des moments où on se dit non. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Et être harcelé, on l'est tout le temps. En même temps, c'est dire gentiment, non, c'est vrai qu'on peut être harcelé par des gens qui sont en position de force, mais je pense que même dans ces cas-là, il faut savoir dire non. Je suis une femme, je suis très sensible à ceci. Mais en même temps, il ne faut pas se cacher. C'est des choses qui arrivent à n'importe qui. Et c'est des choses qui vont continuer à arriver. C'est malheureusement dans la nature humaine. Des gens qui sont en position de force, qui vont utiliser des positions de force, des femmes contre des femmes contre des hommes contre des femmes, tout ce que vous voulez, toutes les donnes sont possibles. Et c'est là où il faut utiliser ce qu'on nous est donné dans notre système. On est au Canada et ailleurs, il y a des moyens pour dire non, ça ne doit pas arriver.
Donc vous pensez à quoi par exemple ?
Toute une pléthore de choses peuvent arriver. Et il faut savoir se dire, est-ce que c'est mon rôle ? Est-ce que c'est à moi d'accepter ? Et non. Et de dire de manière ferme à la personne, non. Et si on n'a pas la capacité de le faire, de trouver les alliés, il y en a des alliés, et de les chercher pour faire ceci. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'être harcelée, d'avoir des propositions qui n'étaient pas très agréables, voire indécentes. Je dis non. Même de rire là-dessus. Et je répète, c'est une question où on se met plus d'obstacles parfois qu'il y en a. Le nombre de jeunes filles que j'ai qui me disent « Mais comment vous faites ? Vous êtes mariée, vous avez des enfants, vous avez une carrière, vous faites... Comment vous faites ?» Ben, quand on pense uniquement aux obstacles, on n'avance pas. C'est pas que je ne suis pas rationnelle et raisonnable, mais je pense qu'on se met nous-mêmes nos obstacles. Et tant que j'ai pas heurté un obstacle que je peux pas surmonter, je continue.
Et mais vous avez dû en surmonter quand même. J'imagine, dans vos débuts de chercheuse, on apprend souvent par soi-même à comment monter. Enfin, moi, une demande de subvention, par exemple.
On a de l'aide. Et c'est là où le mentorat... Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait médecine parce que c'est ce que je voulais faire. Et j'ai rencontré mon premier mentor en France, Alain Fischer, qui vraiment est une personne qui a illuminé ma carrière. Et mon deuxième mentor, Philippe Gros, ici, qui est vraiment un monsieur exceptionnel. J'ai eu beaucoup de chance pour ces deux rencontres. Ces gens m'ont guidée, ont été des soutiens indéfectibles. Et quand j'ai commencé ma carrière en tant que chercheur indépendant, j'ai eu des personnes, Rima Rosen, à l'Institut de recherche du Children, qui a été vraiment un mentor exceptionnel, qui m'a aidée dans mes demandes de fonds. Et j'ai pas été acceptée du premier coup, j'ai eu 5 refus au départ. Et c'était comme une claque, une claque, une claque. Et puis, on continue. Si on pense vraiment que ce qu'on veut et ce qu'il faut qu'on fasse, on continue. Jusqu'à ce... Et ça s'ouvre. Il faut avoir de la ténacité et de la persistance.
Si vous aviez été un homme, comment cela aurait été différent ?
Il n'y aurait aucune différence. Pour moi, c'est clair. Je ne vois pas vraiment... Je répète, c'est pas... je ne suis pas anti-féministe, je ne suis pas féministe. Je pense qu'on a chacun nos plus et nos moins. Être une femme est un bonheur. Être un homme doit être aussi un bonheur. Je n'ai pas ce plaisir. Et je regarde pas en arrière.
Merci beaucoup, Nada, pour toute cette inspiration et ces éclaircissements sur votre parcours. Merci.
Merci beaucoup de m'avoir invitée et c'est un plaisir d'être ici.
C'était 20%, une coproduction du magazine Québec Science et l'ACFAS, avec le soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, la Commission canadienne pour l'UNESCO et L'Oréal Canada. Réalisation, recherche et montage, Karine Mona. Prise de son, Olivier Germain. Musique et mixage, David Lavaisse. Rédaction en chef, Marie-Lambert-Chan. Et cet épisode est enregistré dans les studios Prime à Montréal. Et on remercie aussi la coop Bande à part pour leur accueil. Vous aimez 20%? Dites-le nous sur Apple Podcasts. Avec 5 étoiles, c'est encore mieux. Tous les épisodes sont aussi disponibles à l'écoute ou en téléchargement sur SoundCloud et votre application d'écoute de balado préférée.